dû réfléchir à mieux au petit bonhomme en bleu.
Un soleil blanc et froid lance ses rayons de glace qui investissent le corps par saccades éclatantes. Rien ne bouge et cependant tout vibre en ses alentours. Blotti au creux des tréfonds virtuels et lourds et puissants, plus blancs que le soleil rouge.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'année de la mer. Nous allons plonger dans les profondeurs avec deux écrivains accomplis d'ailleurs. Une romancière, Emmanuelle Favier, qui vient nous présenter Écouter les eaux vives. C'est un roman, très beau roman, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et Gilles Bornet, qui s'y connaît en nage, puisqu'il est lui-même un nageur émérite, comme on dit. Gilles Bornet, qui vient de publier aux éditions du Rocher Les aventuriers de la nage, des évadés d'Alcazar aux héros de la Manche. Alors, je vais commencer par Emmanuelle Favier, qui est romancière. Emmanuelle Favier, c'est votre... c'est le troisième roman, quatrième ? Non, je ne sais plus, là.
Alors, c'est le quatrième roman chez Albin Michel. Oui. J'ai fait paraître un autre roman, enfin un objet un peu hybride, aux éditions Les Pérégrines, il y a 2 ans. Mais c'est le quatrième roman chez Albin Michel, en tout cas.
Écoutez les eaux vives, ça vient de paraître chez Albin Michel. Je dois dire, c'est un roman très intéressant, très documenté, très riche, ce que je vous disais hors antenne. Il y a beaucoup de travail, c'est très nourri et c'est assez captivant. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a en main, on plonge direct dans les immersions, les eaux profondes. Alors, il y a des phrases en exergue. Hein. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul de Jules Verne. Jules Verne que j'ai bien lu et que j'ai retrouvé l'esprit Jules Verne dans votre roman, Emmanuelle Favier. Il y a aussi une phrase de Suran, nous avons été dépossédés de tout, même du désert. Voilà, de l'inconvénient d'être né et là, de l'inconvénient peut-être de vivre en profondeur. Alors, votre héroïne, je crois qu'elle s'appelle Adriane. Elle est quand même un métier très particulier que j'ai découvert avec vous. Elle est oreille d'or. Dans un sous-marin, elle part écouter les eaux. Alors, et en plus, j'ai appris grâce à vous qu'il y avait à Toulon un centre d'apprentissage acoustique. Je ne connaissais pas ce métier. Comme quoi, nos sous-marins avaient besoin d'oreilles d'or pour écouter les fonds marins. Alors ça, c'est absolument fascinant. Alors, vous pouvez nous raconter un peu le début de l'histoire, hein.
Oui, alors les oreilles d'or, en fait tous les bateaux évidemment ont besoin d'oreilles pour écouter d'éventuels ennemis ou d'éventuels obstacles. Les sous-marins, c'est d'autant plus essentiel qu'ils sont complètement aveugles et donc ils avancent sans autre repère qu'acoustique. Et donc l'oreille d'or, c'est l'expert acoustique. En termes techniques, on les appelle des analystes en guerre acoustique, des anagas, qui va donc écouter les bruits de la mer pour faire le distinguo entre un banc de crevettes et un autre sous-marin. Un bateau de surface et un chalutier par exemple ou un cargo et entre les sous-marins il est capable aussi de distinguer entre le sous-marin russe, le sous-marin britannique, etc. en fonction d'un certain nombre de critères et donc il est formé effectivement au CIRA qui est le centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique si je ne dis pas de bêtises, qui est à Toulon, qui est vraiment une exception française. Et l'oreille d'or, alors évidemment les experts acoustiques sont pas uniquement en France, mais l'oreille d'or c'est vraiment une particularité française. On a vraiment ce petit privilège militaire. Et Et donc, Adrienne Ramsay est écossaise. Alors, oui. Elle travaille pour la Royal Navy. J'ai un peu décalé le propos en me situant dans la marine britannique. Et j'ai un peu triché en imaginant qu'il y avait des oreilles d'or dans la marine britannique. Mais ceux qui ont vu Le Chant du Loup ont sûrement entendu parler de ce métier étonnant.
Et alors, c'est un métier, vivre sur l'eau, vivre sous l'eau, pourrait peut-être réapprendre à revivre sur terre. Puisque Adrienne va faire la rencontre avec un... Elle oriente un bateau aveugle, si on peut dire, un sous-marin aveugle, mais elle va rencontrer un aveugle qui s'appelle Abel, et avec Arthur. Donc, il y a trois personnages, leur prénom commence par A.
Oui, alors le A, c'est, j'ai presque envie de dire que c'est involontaire, c'est-à-dire que les prénoms me sont apparus avec beaucoup d'évidence à chaque fois, chaque prénom a une histoire et une raison d'être. Et le fait est que ce sont trois A. Alors A comme amour peut-être, mais A comme autre, je pense, car c'est vraiment un livre.
Sur l'altérité.
Vraiment conçu, voilà, un livre sur l'altérité et son miroir qui est la solitude. Et effectivement, alors bon, évidemment, je me suis intéressée au monde des sous-marins parce que en fait, c'est un monde complètement fascinant auquel je connaissais rien. C'est une rencontre un peu de hasard avec quelqu'un qui avait été oreille d'or, qui m'a donné envie de m'intéresser à ça. Mais évidemment, ça fonctionne comme métaphore. Je suis romancière avant tout. Il ne s'agissait pas de faire un essai sur la marine ni sur la dissuasion nucléaire dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, le personnage d'Adrienne, effectivement, quitte son bateau à un moment donné. Elle est très bien sur son sous-marin. Ça se passe très bien. Elle est à sa place. Elle sait exactement ce qu'elle a à faire à chaque minute de la journée. C'est un monde très cadré, très englobant, très entourant, rassurant presque. C'est un peu contre-intuitif, mais le sous-marin est rassurant pour elle. En tout cas, c'est l'endroit où elle sait exactement pourquoi elle est là. Et quand elle va sortir du sous-marin, elle va se retrouver confrontée aux abysses, non pas de l'océan, mais aux abysses du monde, ce qu'ils appellent le monde des vivants, et donc de l'altérité des autres, et avec tout ce que ça peut avoir d'imprévisible, d'incontrôlable, d'immaîtrisable. Et elle va rencontrer effectivement Abel, qui est aveugle, qui est une sorte d'ermite misanthrope, qui s'est construit à lui aussi sa petite bulle, son petit cocon de certitude. Et évidemment, ça va faire des explosions.
Et oui, voilà. Alors, Adrienne écoutait les symptômes de la mer, comme le médecin de bord écoutait le cœur des marins. Adrienne écoutait la mer, ce qui, contrairement à ce que l'on pourrait légitimement penser, n'équivaut pas à écouter le néant. Ça, c'est pour donner une idée de votre écriture. Elle aimait tout, donc, mais ce qui avait été définitivement décidé de sa vocation était le moment désigné par le nom idéal de dilution, où le sous-marin plongeait. Il devenait alors indétectable, se faisant lui-même liquide parmi l'immensité liquide. La toute première fois qu'elle avait senti le bateau s'enfoncer, il lui avait semblé que le monde se dérobait sous elle. L'éritisme presque insoutenable de l'expérience avait tendu ses nerfs pendant plusieurs heures et l'avait laissé épuisée. Le plaisir amniotique qu'elle y avait pris avait été immédiatement, irrémédiablement addictif. Donc c'est un roman, Emmanuel Favier, sur les éléments. C'est une femme élément. C'est une femme liquide, c'est une femme sirène aussi. On voit la très belle couverture d'ailleurs qui est de votre livre chez Albin Michel. Cette histoire de plonger, elle plonge dans le vivant. C'est la femme qui plonge dans le vivant dans tous les sens du terme, qui a avoir ces deux rencontres. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'initiation et d'apprentissage ?
Ah oui, complètement. D'ailleurs, je me demande si tous les romans ne sont pas d'une manière ou d'une autre des romans d'apprentissage. Mais oui, c'est vraiment l'idée d'une quête. C'est pour ça que je parlais de métaphore. C'est-à-dire qu'elle sort du sous-marin, il lui arrive quelque chose, un drame. Et donc, elle va tout son monde va s'écrouler, toutes ses certitudes vont s'effondrer. Ça va évidemment prendre de l'ampleur avec la rencontre avec Abel, qui a rendu possible ce drame, finalement. Et elle va progresser sur le chemin de l'incertitude, c'est-à-dire que elle va se défaire peu à peu, comme on se défait de ses écailles, de toutes ses croyances, et pour se retrouver un peu à nu. Alors c'est une expérience assez douloureuse, dont finalement je laisse un peu au lecteur le choix de l'issue, mais il y a vraiment cette notion de changement pour quelqu'un qui, encore une fois, avait pensé construire sa vie de manière extrêmement réglée et on peut imaginer, hein, c'est-à-dire que, bon, c'est l'armée déjà, c'est le monde militaire, donc évidemment c'est extrêmement rigoureux, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que donc Adrienne est sur les sous-marins qu'on appelle lanceurs d'engins, donc qui possèdent la bombe atomique, donc ce sont ces fameux sous-marins de la dissuasion nucléaire qui ont pour seule mission d'évoluer dans les eaux pendant plusieurs mois et de rester indétectable, donc, comme on l'a entendu dans le passage que vous avez lu, et éventuellement de détecter un ennemi, mais surtout de ne pas se faire repérer. Et on peut imaginer, ils passent, les Anglais en particulier peuvent passer, je crois que leur record est pas loin des 6 mois au fond des mers pour des questions de rotation. 6 mois sans jamais, jamais, jamais émerger, sans jamais avoir de contact avec l'extérieur. Ils reçoivent des messages une fois par semaine, mais évidemment c'est extrêmement contrôlé, hein, c'est lu et relu, parce qu'il faut surtout pas que leur morale soit atteinte d'une manière ou d'une autre. Donc ils mangent bien, ils travaillent énormément, ils font du sport, mais il n'y a aucune place pour les émotions, il n'y a aucune place pour le vague à l'âme, il n'y a aucune place pour... ce qui évidemment est impossible, hein, ça reste des êtres humains, mais tout est fait pour qu'on contrôle en permanence. Et cette femme qui est habitée par tout un tas de pulsions, de désirs, de violences aussi, une fois qu'elle va sortir du sous-marin et être confrontée aux éléments, et je prends la métaphore, j'utilise aussi la métaphore de la plongée, au sens de plongée en bouteille, ou voilà, et de la nage, pour faire le lien avec le livre de Gilles Bornet ici présent, retrouvaille avec les éléments, et retrouvaille avec ses pulsions et avec sa vraie peau, parce que sinon elle est contenue dans la peau du sous-marin, donc cette peau artificielle que j'ai rendue très très animale aussi d'ailleurs, mais qui a un autre corps, et donc elle est corps dans cet immense corps qui est le sous-marin et qui est l'armée aussi, le monde militaire.
Il y a une sorte de c'est la chrysalide. Enfin, elle fait des mues successives, on la suit dans ces mues successives. Emmanuelle Favier, votre héroïne. Le feu était l'ennemi absolu, l'aliment principal des psychoses, bien plus que la perspective, somme toute très, très abstraite, de devoir tirer un missile nucléaire susceptible de détruire une bonne partie de l'humanité. Les innombrables composants électriques, moteurs et pompes, résistances, fusibles et autres disjoncteurs étaient autant de sources possibles d'étincelles et d'escarbilles. C'était une crainte permanente. Ils s'étaient tous formés pour y répondre. Il y a la solitude, une solitude qui est absolue. Et vous nous parlez, vous dites l'infinie solitude dont l'océan est la parfaite métaphore. Et après, vous dites, vous parlez des familigrammes. Alors les familigrammes, c'est quoi? Ce sont des télégrammes que les familles envoient une fois par semaine, je crois.
Oui, c'est une fois par semaine, c'est limité. Alors de mémoire, c'est 50 mots. Le mot familigramme est français, mais il y a vraiment l'équivalent. Je crois que c'est exactement le même en anglais. En tout cas, c'est exactement le même principe. Et donc, ils sont envoyés... je vais vous épargner les questions techniques, surtout que je ne maîtrise pas forcément très très bien. Mais en tout cas, ils émettent... Ils montent un peu vers la surface pour recevoir les messages et ils les transmettent aux sous-mariniers. Ils n'ont droit qu'à une seule personne qui leur écrit. Alors on m'a parlé, j'ai fait une rencontre récemment avec une mère de sous-marinier qui m'expliquait que une semaine sur deux c'était elle, une semaine sur deux c'était la compagne de son fils qui écrivait. Mais voilà, on a vraiment le contact avec une seule personne. Et je suis partie aussi de l'idée que puisque la personne que j'avais rencontrée m'avait raconté pourquoi il avait finalement arrêté d'être sous-marinier. Il était resté seulement 3 ou 4 ans, je crois. C'est parce qu'il a, au retour d'une patrouille, il avait découvert que son père était mort. Et en fait, il n'avait pas pu assister à l'enterrement, évidemment. Les mauvaises nouvelles ne sont jamais transmises pour conserver le moral de la personne et donc de l'équipage et le bon fonctionnement, puisque voilà, la moindre erreur humaine est susceptible évidemment de causer des catastrophes absolues.
Combien de temps vous avez mis aussi, vous avez fait les recherches avant, vous avez été voir des gens, on voit ça à la fin du livre, mais combien de temps ce roman a été écrit?
En général, je suis souvent presque une année entière de recherche avant de me mettre vraiment à l'écriture. Après, la recherche s'arrête pas complètement. Enfin, on est toujours en train de se documenter, hein, évidemment. Puis, c'est un roman contemporain. Il y a des évolutions aussi dont il fallait tenir compte. Puis, des nouvelles rencontres, forcément. J'ai interrogé, une dizaine de personnes, donc sous-mariniers, anciens sous-mariniers, depuis les matelots jusqu'aux commandants, ce qu'on appelle les pachas. J'ai interrogé aussi une femme, puisque on n'a pas abordé cet aspect-là, qui était très important pour moi, c'est que Adriane est une femme, et oui. on s'en doute, il n'y a pas beaucoup de femmes sur les sous-marins,
bien sûr.
Et surtout, c'est extrêmement récent. En France, c'est seulement depuis 2018. Et donc, quand j'ai découvert ça, ça m'a paru assez intéressant et important de partir de cette donnée-là. Aujourd'hui, oui, alors ça évolue vraiment, hein, les nouveaux modèles de sous-marins sont construits en fonction de la féminisation des équipages, on a des quartiers séparés, mais ça reste encore extrêmement minoritaire. C'est un tout petit peu plus ancien pour les Anglais, mais c'est 2014, si je ne dis pas de bêtises, mm-hmm. donc c'est quand même assez loin. Et j'ai perdu le fil de
la question.
C'est
pas grave, puisque vous avez parlé de femmes, c'est vrai qu'à un moment donné, vous nous parlez des aquanautes pionnières, et dont Sylvia Earle, qui est une femme qui, parce qu'elle a des... Alors ce qui est intéressant, c'est que votre personnage, Adriane, elle va rencontrer donc cet homme qui est aveugle, avec Arthur, qui lui est un peu épris d'elle, mais elle, en fait, elle est dans une sorte de sous-marin qu'elle est censée guider, mais elle apprend un autre langage avec son corps. Parce qu'il faut se guider, tout est millimétré dans le sous-marin. Vous dites, par exemple, chacun savait quelle était sa place, quel geste il devait effectuer, dans quel ordre, quel mot il devait prononcer, une poignée de minutes dont le nombre exact restait inconnu au commun des mortels, devait séparer la réception de l'ordre émis, etc. Donc faut pas faire de faute, c'est un univers carcéral presque, hein, on pourrait dire, on est comme dans une prison sous l'eau. Et malgré tout, c'est un univers où chacun s'écoute, chacun se réapprend. Il y a aussi la poésie de... Vous dites, elle avait été envoûtée par la poésie paradoxale des étoiles de mer, soudées aux hélices barbues de corail, des tableaux de bord dont les innombrables cadrans et interrupteurs, grumelés par la rouille, rongés par le sel, évoquaient les ventouses des pieuvres fossiles et démesurées. Alors on sent dans votre écriture, Emmanuel Favier, qu'il y a toujours de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Un petit détail du bateau, du sous-marin, et hop, on repart dans les abysses.
Oui, parce qu'il y a toujours évidemment la présence de l'océan derrière. En fait, ce qui est très curieux avec les sous-mariniers, c'est qu'ils n'ont aucun contact avec la mer, contrairement aux marins de surface. Mais elle est toujours présente, elle est toujours là, et l'oreille d'or est la seule personne qui est en connexion finalement avec cet extérieur, avec ces abysses. Je reviens sur votre comparaison avec la prison qui m'intéresse, d'autant plus que je m'intéresse beaucoup à la prison et que j'y travaille. Donc je me pose aussi des questions sur ma relation à l'enfermement. Mais il y a quand même une énorme différence. Et c'est très très important dans le monde militaire en général et de la sous-marinade, puisqu'on appelle ça comme ça en particulier.
Oui.
C'est la fierté d'être là, la fierté de l'appartenance, le sentiment de la tribu, le sentiment de faire son devoir aussi, évidemment.
Bien sûr.
Le sentiment d'être gardien d'un modèle de civilisation, puisque c'est vraiment comme ça qu'il exprime. Évidemment, je ne pose pas d'avis, moi, sur la question de la dissuasion nucléaire. Je pose des questions, les romans ne sont pas là pour donner les réponses, mais pour susciter des questions chez le lecteur. Mais voilà, c'est quand même la grande différence avec la prison, c'est qu'on n'est pas là par culpabilité, on n'a pas la honte qu'on peut ressentir éventuellement quand on a commis un crime et qu'on est emprisonné. Les conditions de vie sont bien meilleures, c'est-à-dire que je l'ai dit, mais ils mangent très très bien. Être cuisinier sur un sous-marin, ça m'aurait beaucoup plu d'ailleurs. Et c'est énormément de travail et ça demande beaucoup d'inventivité pour garder le moral des troupes. Voilà, donc c'est un monde assez fascinant qui est très... très très solidaire évidemment
et oui alors
très droit
voilà. Sentez le pouls immense de l'océan, devinez ses artères où circule un sang noir abritant tous les peuples d'âmes microscopiques, infusoires, bacteries ou diatomées. Qu'est-ce que c'est que c'est le... alors il y a une nuit artificielle, qu'est-ce que c'est que les lampes analictiniques, j'ai pas bien compris ce que c'était, parce qu'il y a un temps quand on est, ils vivent dans l'obscurité en fait, donc il faut recréer le temps aussi dans un sous-marin.
Exactement, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de relation avec le monde extérieur pendant plusieurs mois, il faut bien quelque chose pour rythmer, même votre corps doit comprendre aussi que c'est... On a fait des expériences, je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est cet homme qui avait fait l'expérience de vivre au fond d'une grotte, un spéléologue, pendant plusieurs semaines, et on voit qu'il perdait complètement la notion du temps. Donc c'est pas possible pour les sous-mariniers, il faut qu'ils soient encore une fois très réglés dans leur et il faut qu'ils soient en forme physique aussi. Donc on a les, effectivement ces lumières rouges qui indiquent que c'est le temps nocturne, et une lumière plus un peu blanche qui est celle du temps diurne, et qui voilà, et la nuit se fait à la même heure chaque jour. On ne respecte pas les changements d'heure de la surface, et ils sont quand même en lien avec les horloges universelles, je crois, pour avoir une petite idée de là où ils sont.
Cette épiphanie était aussi un vertige. La jeune fille découvrait que l'univers était deux fois plus grand que ce que les apparences laissaient croire, et qu'accéder à sa moitié invisible n'exigeait qu'un peu de témérité. Elle découvrait surtout qu'elle trouvait à cet abandon en profondeur un plaisir psychotrope qui avait quelque chose d'effrayant pour la novice qu'elle était. Alors l'euphorie qui infusait dans son sang nourrissait d'une peur exquise, inédite. Elle entrevoyait une part d'elle-même dont elle devinait instinctivement qu'il lui fallait se méfier. Donc elle se découvre, elle se redécouvre. Et une fois qu'elle va bien sûr remonter à la surface, là, ça va être une autre histoire avec ses deux autres rencontres qui l'attendent. Plus le problème avec son père hein, aussi. Parce que c'est un livre de rencontres et de ruptures.
Oui, alors là, vous avez cité un passage qui est en fait antérieur au temps du roman, c'est sa découverte de la plongée sous-marine.
Oui. Que vous avez pratiqué vous-même ou pas ?
Alors, pour le roman, j'ai fait mon baptême, j'ai trouvé ça formidable. Du coup, je me suis inscrite au niveau 1 et j'ai trouvé ça terrible et terrifiant. Donc, j'ai pas une grosse expérience de plongée sous-marine, mais j'ai pas dit mon dernier mot. De la même façon que je n'ai pas dit mon dernier mot, parce que j'ai fait les démarches pour essayer de plonger en sous-marin, pour essayer d'embarquer, parce que parfois, arrive d'embarquer des civils sur des essais. Donc, avis aux forces stratégiques, si vous changez d'avis, je suis toujours partante pour embarquer. Et donc, oui, Adriane, faisant cette expérience de la plongée sous-marine, c'est là qu'elle découvre qu'elle est, elle a des pulsions qu'il lui faut, qu'elle doit absolument contrôler, parce qu'elle risque d'être prise par l'ivresse des profondeurs, tout ça étant évidemment très métaphorique. Mais, et donc, elle sort du sous-marin. Alors, bon, pas trop dévoilé, mais effectivement, il y a ce drame qui l'amène petit à petit, voilà, par quelques hasards, en France, en Bretagne. Donc c'est un livre qui se passe d'abord sur le sous-marin, puis en Écosse, et puis ensuite beaucoup en Bretagne, où elle va faire d'abord la rencontre d'Arthur, qui est plongeur scientifique à la station biologique de Roscoff, et qui est finalement dans le trio que, puisqu'Arthur va présenter Adriane à Abel, dans le trio que forme ces personnages, Arthur d'une certaine façon est le seul qui voit. Il est photographe aussi, photographe sous-marin, il fait de très belles photos dans le fond des mers, et c'est lui qui va être le témoin finalement de cette collision, de cette rencontre explosive entre Adriane et Abel, entre deux aveugles enfermés dans leur certitude, et lui plus souple, on va dire, il fait le trait d'union bien malgré lui hein, il en est bien désolé, mais il assiste à ça, et il va finalement, c'est lui qui s'en sort le mieux, puisqu'il est comme le roseau, il est plus souple.
Il est plus fait. Et voilà, le roseau pensant. On va faire une pause musicale.
Eh bien, un bateau met deux mains d'Anne Sylvestre. Une ancienne chanson d'Anne Sylvestre.
Un bateau s'est cassé, Baptiste, nous n'irons plus sur les rochers. Les gens de la côte sont tristes, ils ont le cœur tout arraché. Un bateau s'est cassé, il sombre, bien sûr ce n'est pas le premier. Mais avec lui s'approche l'ombre, nous n'irons plus jamais pêcher. Un bateau s'est cassé, Gaël, il vomit du noir assassin, il tue la mer et avec elle tout ce qui vivait dans son sein. Il endeuille à jamais les plages, il désespère les marins, empoisonne les coquillages et les oiseaux mourront demain. On me dira, reste à ta place, occupe-toi donc des enfants. Avec quoi veut-on qu'on les fasse, ces chansons de vagues et de vent? Avec quoi veut-on qu'on les berce, tous ces enfants désenchantés? Quand je pense à ce qu'on leur laisse, je n'ose plus les regarder. Un bateau s'est cassé, Carole. Un bateau empoisonne tout et les beaux poèmes s'envolent. On vit dans un monde de fous. Demain, ça en sera un autre. Et pourquoi ça s'arrêterait? On se repassera la faute, la belle jambe que ça nous fait. Un bateau s'est cassé, Grégoire. On veut déjà nous rassurer. Et pourtant, c'est la mer à boire. À boire et puis à en crever. Un bateau, mais demain, Karine, puisqu'un bateau a pu faillir. Demain, ça sera une usine qui sera la mort à venir. On me dira, vas-tu te taire? Mais demain, tout sera foutu. Qu'auront-ils fait de notre terre? Nous n'irons plus, nous n'irons plus. Nous n'irons plus au bois des mômes. Les arbres sont défeuillés. Restera-t-il quelques fantômes pour dire nous avons été? Un bateau s'est cassé, Armel, et nous irons sur les rochers avec nos seaux, avec nos pelles, comme si rien n'avait changé. Mais ça ne sera pas du sable. Nous n'y ferons pas de château dans tout ce noir irréparable. L'espoir s'enlisera bientôt, tout comme grèvent les oiseaux.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Gilles Bornet pour Les Aventuriers de la Nage et d'Emmanuel Favier pour Écouter les deux rives qui viennent de paraître aux éditions Albin Michel. Emmanuel Favier, bon, votre roman est le roman d'une immersion. Une immersion sous l'eau, une immersion sur terre, une immersion dans la passion amoureuse, etc., etc. Et puis, alors moi, j'ai bien aimé le passage sur la baleine bleue. Vous dites soudain, Adriane compris, c'était une baleine bleue. Il n'en restait plus que quelques milliers de spécimens sur la planète et les entendre était un phénomène rare. Elle produisait des infrasons inaccessibles à l'oreille nue, mais qu'Adriane captait grâce à ses appareils sophistiqués. C'est émouvant ce passage.
En fait, on disait que c'était un roman sur l'altérité, et l'altérité ultime, c'est quand même celle de l'animal, enfin ouais, des autres espèces plus précisément. Donc beaucoup d'animaux émaillent ce livre. Je les considère un petit peu, puisqu'on parlait de romans d'apprentissage initiatique, comme ce qu'on appelle les adjuvants quand on fait de l'analyse narrative. Donc il y a cette baleine, il y a un chat, évidemment, qui est le chat d'Abel, qui est un chat guide d'aveugle, donc ils sont tous un peu des guides. Et le passage avec la baleine est effectivement un des passages très importants pour moi. Il parle vraiment de ce qui est aussi finalement le sujet du livre, à savoir, et ça fait écho d'ailleurs à la chanson d'Anne Sylvestre qu'on vient d'entendre, la folie des hommes, la folie du monde. Et cette idée de dissuasion nucléaire qu'on l'a considère comme nécessaire ou pas, reste une forme de folie. C'est-à-dire qu'il y a quand même une... on est arrivé à un point de bascule où on tient entre nos mains notre propre destruction intégrale et où on fait tout pour massacrer finalement notre maison. Enfin voilà, je pourrais dire que des banalités, mais j'ai essayé de le faire passer à travers non pas la voix des animaux, puisqu'ils sont muets, mais leur regard. Ils sont, pour le coup, comme Arthur, les animaux voient et ils observent. Alors, le livre commence avec un héron qui découvre un corps sur une plage, j'en dirai pas plus, et qui observe les hommes depuis le ciel, qui observe la folie des hommes depuis le ciel. Et la mer, elle, la baleine, elle, observe la folie des hommes depuis le fond des mers. Et elle est aussi cette métaphore de ce qui en nous s'est perdu complètement.
Bien sûr, c'est un
avec le langage.
Désorientés par les sonars, baleines et dauphins cessaient de se nourrir ou bien remontaient trop vite à la surface et subissaient les souffrances d'une décompression brutale avant de venir s'échouer sur les rivages où leurs dépouilles étaient autant de poignantes accusations. Puis plus loin, vous dites, la baleine était une présence rassurante parmi les secrets de l'océan. Et il y a ça, c'est comme si l'océan était un palimpseste aussi, qu'on déchiffrait, qui vous était donné à voir. C'est comme un livre, le livre de l'immensité.
Et oui, la rencontre qu'Adriane fait avec la baleine est comme un indice qui lui est donné et qu'elle ne voit pas, puisqu'encore une fois, elle est aveugle, d'une forme d'erreur où elle est peut-être. Vous avez parlé tout à l'heure de Sylvia Earle. Elle fait la rencontre de cette océanographe donc quand elle est jeune, et c'est là qu'elle découvre la plongée sous-marine. Et donc, elle touche du doigt la question de la protection des océans. Mais elle y reste aveugle, en fait. Elle referme tout de suite le couvercle, et littéralement le couvercle du sous-marin au-dessus de sa tête. Et elle se tient à distance, en fait, de cette question-là, cette question de la destruction, notamment des océans, qui est quand même notre cœur absolu. Et notamment à travers l'utilisation par les bateaux de tout un tas de systèmes de sonar qui désorientent complètement les cétacés. Donc voilà, y avait vraiment ça en filigrane du livre qui s'incarne beaucoup à travers les personnages d'animaux.
On pense à Moby Dick, bien sûr, mais on pense à la mythologie, et là, elle est présente.
Bien sûr.
Mais alors, c'est le livre, je dirais presque, de l'ouverture et de la fermeture. C'est-à-dire, dans un premier temps, donc, elle est dans le sous-marin. Vous dites, elle ne spéculait rien, elle ne ressentait rien. Le silence perdurait, étouffant les bruits environnants autant que ses propres pensées. Elle mit le contact et n'entendit rien. Tout était tu éteint, aussi incolore qu'un bruit blanc. Le moteur tournait, qu'elle ne percevait pas, elle patienta. Enfin, il y a une sorte, voilà, elle est dans un état. Toujours un peu, elle se cherche. Quand elle remonte à la surface, il y a la vie d'après, la vie d'avant, la vie pendant, la vie après. Et puis alors l'univers d'Abel, qui est un personnage, il y a Paul aussi, le père, hein, qui est aussi étonnant. Alors lui, pour s'y retrouver, sa maison, vous le décrivez bien, c'est comme une maison un peu baroque, un peu presque une maison hantée, on pourrait dire, on la découvre comme ça. Il faisait des tas, comme d'autres font des listes, tas de livres par taille, tas de journaux ou de prospectus, tas de vêtements qu'il détestait pendre sur des cendres, ces agressives araignées de métal toujours prêtes à s'emmêler sur les tringles, tas de sacs en papier ou en plastique qu'il lisait compulsivement pour les empiler de manière optimale. Il ne se sentait rassuré que dans cet environnement parfaitement contrôlé qu'il connaissait de manière organiquement infaillible. Donc lui aussi, il recrée son monde. Hein.
C'est ça, il s'est construit une espèce de petite prison rassurante avec des murs d'objets et d'objets même souvent inutiles, puisque étant aveugle, il peut pas lire évidemment tous les journaux, tous les tracts qu'il a accumulés. Il glisse doucement vers le syndrome de Diogène, mais il y a vraiment cette idée de se construire des remparts de certitude pour se protéger de nos doutes, de nos gouffres, de nos abîmes. Lui, il a aussi un drame dans son passé qui fait naître en lui une culpabilité qu'il veut absolument étouffer et faire taire. Le personnage de Paul, son père, fait partie de ces personnages un peu témoin aussi, comme témoin impuissant, comme l'est Arthur. Mais il a pourtant la chance d'être accompagné par Miel, qui est donc son chat, un chat guide d'aveugle. Alors ça existe, ça a existé, c'est quand même assez rare, je suis d'accord, mais ça existe. Et donc c'est Miel qui sera le symptôme aussi de son abandon, de sa chute, puisqu'il y a une dimension assez biblique hein, dans le destin d'Abel.
Vous dites il y a un moment, un dialogue, puisqu'en fait Arthur a été un peu missionné par Paul le père pour aider son fils Abel à vivre, enfin avoir à des amis, mm-hmm. enfin avoir un contact. On croit toujours bien faire, tu sais pourquoi je l'ai appelé Abel, je crois que tu me l'as déjà dit, ça va te paraître fou, mais je trouvais seulement que c'était un beau prénom. Pas une seconde, je n'ai pensé au fait que c'était le premier des hommes à mourir. Donc il y a cette dimension mythique, biblique, mythologique, surdimensionnée. Avec, alors en fait, on peut, c'est le point commun qu'il y a aussi avec votre livre, avec le livre de Gilles Bornet et Emmanuel Favier, c'est je parlais tout à l'heure d'enfermement, quelque part, votre personnage est quand même a été enfermé dans un sous-marin, dans sa solitude. Abel est enfermé dans ses problèmes, sa solitude aussi. Et à la fin du roman, je ne vais pas tout révéler, mais il y a une évasion. Il y a une évasion, il y a la soif d'aller vers l'ailleurs, qui est très forte. Et il va s'évader, et donc il va aller en Espagne, je crois, où elle va aller le rechercher, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Il fait un parcours initiatique, il part, voilà.
Mais en fait, ça reste le parcours initiatique d'Adriane, je pense, dans tous les cas. Mais effectivement, le livre se termine en Espagne. C'était important pour moi aussi de faire le parallèle entre l'océan, enfin toutes les formes d'eau et de mer en fait, et même de mer M-E-R-E d'une certaine façon, puisque tous les deux personnages principaux ont perdu tous les deux perdu leur mère très jeune, et donc on finit sur devant la mer, face à la mer Méditerranée qu'Adriane ne comprend pas parce qu'elle est muette, et cette mer ne lui donne aucune réponse, pas plus qu'elle n'en donne à Abel. En fait, tous mes livres, au fond, parlent de la liberté. C'est-à-dire comment on parvient à cette liberté. Est-ce qu'on y parvient? Est-ce seulement possible d'y parvenir complètement? Et donc chacun de mes personnages, au fil de mes livres, trouve ses chemins aussi pour s'approprier sa propre liberté, pour s'approprier son histoire aussi. Il y a la question de la généalogie qui est abordée aussi, de quoi on hérite. Au sens large du terme, ce qui est aussi une de mes petites obsessions de romancière. Voilà, donc cette évasion, enfin vous l'appelez évasion, ça me plaît beaucoup d'ailleurs comme terme, et ça me donne un éclairage sur mes interrogations sur la question de la prison.
Et, prendre le large.
Prendre le large, voilà, c'est ça. Chacun à sa manière, mais bon, je laisse beaucoup de choses ouvertes. Je préviens le lecteur, je réponds pas à toutes les questions parce qu'il me semble que voilà, chacun doit s'inventer un petit peu aussi le livre à sa manière.
Oui, comme un peu lui, aveugle de naissance, il n'avait jamais vu l'océan, mais il l'avait toujours entendu respirer auprès de lui et ne pouvait imaginer d'autres paysages sonores. Donc c'est un être d'imagination, de solitude et d'imagination, Abel. Vous dites, il supportait de moins en moins la compagnie des humains qui suscitait chez lui une forme de répulsion, voire d'embarras, tant il souffrait d'appartenir à cette engeance dont il percevait le grotesque avec une acuité pénible. Côté misanthrope.
Oui, c'est un misanthrope. C'est pas un personnage extrêmement sympathique, hein, je préfère prévenir. C'est drôle comme on est surpris parfois par ces personnages. C'était pas mon intention au départ, j'avais envie d'écrire une belle histoire d'amour. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais oui, et Abel est un paradoxe ambulant, c'est pour ça que j'ai trouvé que il m'a donné beaucoup de fil à retordre. Finalement, c'est d'une certaine façon un intellectuel, puisque c'est quelqu'un qui passe son temps à lire, enfin à écouter des livres plus précisément, mais c'est quelqu'un qui est énormément dans le corps et dans une forme de rapport au sens décuplé. Alors j'ai essayé d'éviter les clichés sur le... Mais j'ai joué avec les clichés, en fait, sur l'aveugle extralucide, l'aveugle survoyant, qui est un peu ce qu'il a l'impression d'être, hein, mais évidemment, il se trompe. Mais il a vraiment un rapport au corps qui est très, très fort, et qui va exploser sur la dernière partie du livre. Mais c'est évidemment un livre qui fonctionne sur les sens, et donc dans le rapport à la nature aussi, qui est très présente dans le livre. Les sens jouent un rôle permanent.
Et il était convaincu qu'il comprenait mieux le langage muet des plantes, les ondes et les cris musicaux des bêtes que les vociférations des hommes, au point que, considérant l'avenir de l'humanité, il ne fondait aucun espoir quant à sa rédemption. Donc c'est un pessimiste absolu, c'est un pessimiste absolu. Je dirais presque qu'il y a l'optimisme peut-être d'Arthur, le pessimisme absolu d'Abel, et que peut-être Adriane, c'est l'action finalement.
Elle se pose pas la question en fait. Elle se posait pas la question jusque-là. Et puis la rencontre évidemment avec le monde des vivants va faire un peu bouger ses...
Elle se pose pas la question, elle plonge, elle nageait longtemps, vacillant entre deux sensations idéales, celle d'être en adéquation parfaite avec l'eau, et celle d'être eau soi-même, la limite entre l'eau, la peau et le liquide, devenant si fine qu'il lui semblait évoluer dans sa propre enveloppe de douceur fluide. Élément parmi les éléments, elle sentait chacun de ses muscles. On peut dire que c'est aussi votre roman Emmanuel Favier, Écoutez les eaux vives, c'est aussi le roman d'une, je dirais pas d'une résurrection, d'une métamorphose, d'une nouvelle naissance à soi-même.
Elle retrouve son corps, en fait. Le passage que vous lisez, c'est effectivement dans la deuxième partie où elle s'autorise enfin à reprendre contact avec l'eau et à dépasser la muraille qu'elle avait mise entre elle et l'eau conçue comme l'élément évidemment de la sensualité, mais aussi du rapport à la mer.
Et puis, il y a des références, par exemple, avec des phrases, une très belle phrase aussi d'Antonio Machado, « Il n'est pas de chemin, rien que sillage sur la mer ». C'est très beau, hein. C'est pour évoquer un peu le parcours en Espagne. Enfin, voilà, parce qu'il part à la recherche. Tout ça, quand même, il y a des références, c'est-à-dire il y a des lectures. Il part à la recherche de, quand même d'un univers livresque, on pourrait dire, littéraire.
Oui, j'ai senti que ce personnage avait besoin d'avoir un rapport aussi à la poésie, sens littéral du terme, au sens générique littéraire. Je vous épargne tous les chemins qui font qu'on arrive à... Je ne sais même pas si on prend des décisions, d'ailleurs, à un moment donné, ce sont les personnages qui les imposent, mais je savais que ce personnage allait s'appeler Abel Lorca. Voilà, ouais. C'est comme ça, depuis le début. Et donc, évidemment, ça aurait été un peu trop facile pour lui, et que ce n'est pas un personnage qui aime la facilité, d'être un passionné de García Lorca. Donc, il a choisi son copain Antonio Machado, ce qui est l'occasion d'aller effectivement sur les traces de ce poète espagnol à la fin du livre.
Voilà, Adrián ignorait en revanche qu'elle suivait précisément le trajet effectué plus d'un an après Machado par le philosophe et critique d'art Walter Benjamin. Donc c'est vrai que chacun ignore en fait qu'il reproduit peut-être un chemin qui a été accompli avant lui. Donc c'est sur la notion de cheminement que vous vous interrogez, de cheminement, de parcours des aides, de parcours de solitude, comment on passe d'une vie à l'autre, d'un sillage à l'autre, avec des phrases. Il y en a une de Marguerite Yourcenar, par exemple. Chaque créature humaine entre sans le savoir dans les rêves amoureux de ceux qui la croisent ou l'entourent. C'est une très belle phrase. Je crois que c'est tiré d'un homme obscur, donc c'est tout à fait...
Et elle aurait pu dire de ceux qui l'ont précédé aussi, puisqu'il y a vraiment aussi ce chemin, il est celui qu'on tire de sa généalogie. D'ailleurs, le père d'Adriane est féru de généalogie et persuadé d'hériter d'une lignée de personnages illustres. Abel lui-même hérite d'une famille du côté de sa mère, donc qui n'a pas connue puisqu'elle est morte à sa naissance. Il hérite d'une, quand il était enfant, il hérite d'une lignée d'exilés espagnols.
Donc chacun son héritage, son histoire en bandoulière. Et avec une autre phrase d'Hubert Haddad, on se détourne, de l'épouvante en perdant connaissance ou en s'abîmant dans le spectacle d'eau vive. La notion d'eau vive, elle est importante pour vous, Emmanuel Favier?
C'est une manière de revenir à... En fait, la dialectique vie et mort est très intéressante quand on l'aborde du point de vue du jargon marin, ce qu'on appelle les œuvres vives et les œuvres mortes d'un bateau, ce que les sous-mariniers appellent le monde des vivants en parlant de celui des terriens. Je trouvais que c'était vraiment des dichotomies qui nous permettaient d'aborder la question de l'évacuation de l'existence et puis de la mort certaine d'une façon un petit peu différente. Et du coup, la matière vive des eaux, donc ce sont les eaux de la rivière, ça fait écho peut-être à mon premier roman qui par beaucoup d'égards peut être relié à ce livre-là. Mon premier roman s'appelait Le courage qui faut aux rivières, donc quelque part je reviens aux sources pour filer la métaphore. Et les eaux vives par opposition aux eaux prétendues immobiles du fond des océans, évidemment elles sont pas du tout immobiles ni muettes.
Ouais, voilà. Et est-ce que alors ce roman vous a-t-il changé? Est-ce que vous avez finalement, vous-même, vous êtes senti comme, en écrivant ce roman, Écoutez les eaux vives, Emmanuel Favier, est-ce que vous êtes senti qu'à la fin, quelque chose en vous avait changé?
Oui, bien sûr. Tous les livres nous transforment, ne serait-ce que parce qu'on se découvre en écrivant. Je le disais, il y a quelque chose qui nous échappe et on découvre une part de soi-même parce qu'on la met sur le papier et on la rend visible en l'écrivant. Et voilà, c'était pas forcément conscient avant. De manière plus concrète, j'ai quand même envie de témoigner de ça parce que c'est une expérience que j'ai eue pour un peu tous les livres, mais là, c'était vraiment très, 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 très fort. C'est que m'intéresser à ce monde auquel je ne connaissais rien au départ, des sous-marins, a été une expérience physique énorme. Alors même que j'ai jamais fait vraiment l'expérience de sous-marin. Enfin, j'ai visité des sous-marins qui sont à quai, hein, qu'on peut facilement visiter comme musée. J'ai eu la chance de visiter un sous-marin actif, mais malheureusement pas les sous-marins lanceurs d'engins atomiques. Mais c'est une expérience très forte sensoriellement, du point de vue des odeurs notamment. Mais ça a vraiment envahi mon corps de manière très, très puissante et explicite. Et jusque dans mes rêves, pendant tout un été, je rêvais toutes les nuits que j'étais à bord d'un sous-marin. Il y avait vraiment quelque chose de très engageant, au point que j'ai fini par me persuader d'une certaine façon que j'avais déjà plongé, que j'avais déjà cette expérience-là. Alors que, je le répète, c'est pas encore le cas, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Mais j'ai vraiment, ça a été très très engageant de ce point de vue.
Bon, il y a un autre projet sous le coude là actuellement. Vous travaillez, je crois, sur un autre élément.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas exactement de saison, mais le livre paraîtra en octobre. C'est un petit éloge du feu de cheminée qui paraîtra aux éditions Les Pérégrines. Et je travaille également sur un film sur mes activités en prison. Donc voilà.
Oui, ces activités, vous avez fait quoi en prison? Vous avez fait
des ateliers d'écriture, des rencontres d'auteurs aussi. Voilà, j'ai un gros projet d'écriture et de mise en musique des textes écrits par les détenus.
Très bien. Vous avez on peut vous retrouver, il y a des salons là à venir, on peut vous rencontrer, des lectures.
Alors la promotion est terminée, le gros de la promotion est terminé, elle s'est terminée le week-end dernier à Vannes où j'ai eu la joie de recevoir le prix de la ville de Vannes.
Oui.
Je serai normalement à la Tremblade, librairie de la Tremblade le 11 juillet.
Oui.
Et puis après on se retrouve à la rentrée avec sûrement plein de salons et plein de choses intéressantes.
Merci beaucoup Emmanuel Favier pour écouter Les Eaux Vives. Très beau roman, un très beau roman pour l'été en tous les cas, pour ceux même qu'on ne voyage pas, si on ne part pas, on peut partir avec vous, avec Écouter Les Eaux Vives. C'est un roman qui vient de paraître chez Albin Michel avec un très beau visuel, un bandeau avec un très très beau visuel. Ce n'était pas de l'amour, c'était beaucoup plus violent que l'amour et ce n'était pas seulement que de l'océan, mais c'était beaucoup plus que l'océan. Il y a un sentiment océanique qui nous étreint quand on vous lit. Merci beaucoup pour ce très beau roman avec, je vous disais, des phrases qui nous entraînent très très loin. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci à vous.
Merci. On va faire une pause musicale.
Alors là, je vous ai choisi un groupe réunionnais. Hein, ils sont sur une île, sages comme des sauvages. C'est un disque qui date de 2020 et ils s'exclament de l'eau.
Comme l'eau bouge tout le temps, c'est étonnant, c'est étonnant. C'est immobile, c'est rapide et c'est lent. Sa développante est la plus raide. Sans sa volonté, ça creuse tout, ça va. C'est étonnant, c'est étonnant. Comme ruisselle tous mes sentiments. Comme je bois, je crache, comme je pleure. Liquide ma peine, mon plaisir, mon malheur. Par les lèvres on rentre, les lèvres on sort. Par les lèvres, les paroles et la mort. Knowing the thought, knowing is the answer. Knowing
stick in the mud, stuck in the mud. The dancing you danced brought about the flood. Learning to speak, learning to swim, perfecting the timing, knowing when to jump in. Knowing the thought, knowing is the answer. Knowing that the journey is just all there is.
Comme on croit connaître ses blessures, comme on les voit se refermer.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous avez écouté l'émission Bibliomanie aujourd'hui en présence de Gilles Bornet qui vient nous présenter Les Aventuriers de la Nage, des évadés d'Alcazaz aux héros de la Manche. Gilles Bornet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes vous-même un aventurier de la nage, j'ai l'impression. Vous êtes un nageur émérite.
Je suis un nageur, je ne sais pas si je suis émérite, mais je suis surtout un nageur de bassin,
oui.
Qui s'est parfois risqué en eau libre, c'est-à-dire dans la mer, mais qui est plutôt un nageur de bassin, et j'ai donc pu apprécier la difficulté de nager ailleurs que dans une piscine, et d'admirer d'autant plus ceux qui le font avec beaucoup de courage.
Alors, il y a une phrase en exergue, vous citez Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a pas de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Il y a beaucoup de combats dans votre livre, Gilles Bornet. Vous parlez de combats et d'un personnage, en fait. Je dirais presque votre essai, car c'est un essai, commence par un personnage de roman qui nous a tous fascinés, c'est Edmond Dantès. Vous écrivez, Dumas a fait sienne la grandeur très humaine du nageur. L'écrivain décrit les ressources mentales de Dantès avec un réalisme que je qualifierais de paradoxal. C'est sa peur, cette rapide persécutrice qui double la vigueur du fugitif, lequel affronte ensuite le flot avec la force et l'impulsion du désespoir. On parlait d'évasion tout à l'heure, mais là, c'est vraiment un livre où l'évasion a une très très grande place, Gilles Bornet.
Il y a plusieurs chapitres sur l'évasion. Il y a celui de Dantès, consacré à Dantès, évidemment, qui est la première des grandes évasions romanesques, puisqu'il prend la place de l'abbé Faria. Mm. Et effectivement, tout le monde se met à sa place dans ce sac qui se retrouve plongé au fond de la Méditerranée. Et tout le monde a envie qu'il en sorte parce que le lecteur aurait l'impression d'étouffer. Et puis, je parle aussi des évadés d'Alcatraz, qui sont les plus célèbres. Des évadés, ça s'est passé le 11 juin 1962 dans la baie de San Francisco, dans le Pacifique, un soir où ces trois hommes ont tenté le tout pour le tout, au péril de leur vie, pour s'échapper de ce pénitencier dont le procureur Cummings avait dit « aucun homme ne s'en échappera jamais ». Il l'avait dit bien avant, puisque le pénitencier existait depuis 1934. Plusieurs détenus avaient essayé de s'échapper. Aucun n'avait survécu. Enfin, en tout cas, certains avaient été repris, mais beaucoup étaient morts. Soit ils étaient noyés, soit ils avaient été abattus par les gardes. Et ces trois-là ont bâti quasiment un mythe, parce que on ne sait pas s'ils sont survécu. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce chapitre, j'étais parti pour écrire 5 pages, parce que j'avais vu le film avec Clint Eastwood.
Oui.
Et en fait, j'ai écrit, je ne sais plus combien, 30 pages, parce que c'est complètement passionnant. J'ai refait toute l'enquête. Et on ne sait pas si ces trois hommes ont réussi à rallier soit d'un côté San Francisco, soit une île, soit la terre ferme de l'autre côté du pont de San Francisco. Des scientifiques aux Pays-Bas ont reconstitué en laboratoire la baie de San Francisco et les conditions de leur évasion. Ils ont regardé où les courants auraient amené ces détenus. Ils se sont eux-mêmes mis à l'eau pour voir ce qui se passe. Alors, ils ont dit, en fait, leur conclusion, c'est de dire, ils ont pu s'en sortir à condition d'avoir pagayé ou nagé très bien. Et ce ne sont pas les seuls à avoir essayé de reconstituer cette évasion mythique. Jacques Tuzet, qui est un des plus grands nageurs français en eau libre, s'est mis à l'eau aussi, lui, mais alors exactement un 11 juin, à la même heure que les évadés. Et il a essayé de se mettre à leur place. Il était avec deux autres nageurs, enfin une nageuse et un nageur. Et je ne vous dirai pas en fait ce qu'il en a déduit parce que déjà on peut pas être sûr que c'est la vérité. Et quand bien même serait-elle la vérité, j'allais dire pour l'accepter, il faut lire tout ce qui entoure tout le mystère en fait de cette évasion. Parce qu'on a retrouvé des photos d'eux après, ouais. on les a dit au Brésil, on les a dit ailleurs en Amérique du Sud, on les a dit à l'enterrement de leur père, on les a dit partout. Il y a eu des photos, leur mère a reçu des fleurs, soi-disant, pour la fête des mères, elle a reçu des lettres d'eux. Et donc, là on est bien au-delà d'une évasion classique, on est dans un mythe.
Et il s'appelait comment alors en fait? Parce que alors
il y a deux frères qui s'appellent John et Clarence Anglin.
Voilà, c'est ça.
Et il y a Frank Lee Morris. Ouais. Ce sont trois détenus. Alors il y en a un des trois, c'est Frank Lee Morris. Il a un QI de 130. Un QI de 130, ça vous met assez nettement au-dessus de la moyenne. On a des QI entre 95 et 100 en moyenne. Lui, il est à 130 de QI, donc il est presque surdoué, hein, on peut dire ça. Et c'est lui qui est le cerveau en fait de toute cette évasion. Et comment font-ils pour s'évader de la prison dont on ne s'évade pas? En fait, ils fabriquent des mannequins, avec des vrais cheveux, avec de la pâte à savon et tout un tas de choses. Alors pourquoi ils ont des vrais cheveux? Parce que il y en a un d'eux qui s'est fait enrôler dans le salon de coiffure du pénitencier, et donc pendant plusieurs mois, ils font ces mannequins, et de deux, ils creusent des galeries dans leurs cellules respectives, par lesquelles ils vont atteindre les toits. Alors, vous allez me dire, mais ça fait du bruit quand on creuse des galeries. Les autres détenus font suffisamment de bruit pour que ces jours-là, les gardiens ne les entendent pas. Et donc, ils se retrouvent sur le toit ce jour-là. Et quand je décris l'évasion, je la décris aussi du côté du gardien qui va la découvrir. C'est-à-dire, le gardien, évidemment, habitait sur l'île d'Alcatraz. Il est avec sa petite famille, il prend son petit déjeuner, il écoute la radio, je dis même la chanson qu'il est en train d'écouter. Et qui s'appelle Sheila, d'ailleurs, la chanson. Et d'ailleurs, Sheila s'inspira de ses chansons pour prendre son nom. Vous voyez, il y a tout un tas de choses assez amusantes. Et il va se retrouver devant ce mannequin qui ne veut pas se lever alors que l'appel a été fait, jusqu'au moment où il s'aperçoit que ce n'est pas un détenu, mais c'est vraiment un mannequin. Et là, l'alerte est donnée, mais les détenus sont déjà loin.
Oui, alors vous dites que dans le système pénitentiaire, l'Alcatraz représente le summum de l'isolement. Vous dites qu'entre 1934 et 1963, 36 prisonniers tentèrent 14 fois de s'évader en nageant ou en ramant. Pour ceux qui réussissent à atteindre l'océan, selon les versions officielles, 23 furent rattrapés, 6 furent tués par balle et 5 ne furent jamais retrouvés. Donc c'est un peu mission impossible cette histoire. Est-ce qu'il y a encore plus mission impossible ? C'est qu'ils sont peut-être encore là, finalement.
Oui, c'est
le rêve. En fait, ce qui vous fascine, Gilles Bornet, dans ses aventuriers de la nage, c'est le rêve. Alors, là, ça rejoint un peu ma première question avec cette histoire d'Edmond Dantès. Vous dites, pour, je pense, Alexandre Dumas, le flot y est décrit dans ce qu'il a plus romanesque, abritant des créatures inquiétantes et capables de colère terrible, malmenant ceux qui s'y aventurent à la nage ou en bateau. C'est un peu l'homme dans sa petitesse face à l'océan, face à l'océanique, face à ce défi énorme. Et c'est ça aussi, vous dites, leur exploit raconte d'éclatantes ou sombres destinées, certains livrent des secrets, d'autres en façonnent. Pourquoi pas, m'a répondu l'un de ces nageurs de l'impossible, ça aurait pu être le titre du livre, Les nageurs de l'impossible. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait mis sa vie en danger, j'ai alors compris que ces gens-là plaçaient au-dessus de leur existence quelque chose de sublime et de difficilement irracontable, un mot, une larme, une image, leur rêve.
Ce sont des grands rêveurs, oui, effectivement. Avant de s'attaquer à la Manche, de traverser la Manche ou de descendre des rivières sur 80 et quelques kilomètres, donc de se mettre vraiment dans des dangers d'autant plus grands qu'ils sont liés à l'imprévu. Hein, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ces gens-là ont fait un rêve à l'image d'Arnaud Chassery, qui a traversé 3 fois la Manche tout seul. Et en fait, pourquoi Arnaud Chassery, qui est un nageur, j'allais dire moyen, qui est un nageur qui fait des compétitions, mais qui est un nageur moyen, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire ça. En fait, lui, il veut traverser la Manche parce qu'enfant, il habite chez sa grand-mère. Enfin, il va en vacances chez sa grand-mère du côté de Ouissant, sur les bords de la Manche. Et avec son frère et son cousin, il regarde émerger, sortir de l'eau, justement ces nageurs exceptionnels qui viennent de traverser la Manche. Et pour lui, ce sont des demi-dieux, ce sont même des dieux. Et il se dit un jour, je serai ce demi-dieu, je traverserai la Manche. Alors, il a une vie extraordinaire, Arnaud Chassery, qui fait que il a un certain nombre de drames dans sa vie qui vont le renforcer dans cet objectif ultime. Et donc, il va devenir un nageur. Alors, sa vie est loin d'être un long fleuve tranquille, hein, sans mauvais jeu de mots. Et donc, jusqu'au jour, il va se jeter à l'eau. D'ailleurs, au lendemain d'un drame personnel terrible, mais il va emmener ce drame avec lui dans la traversée de la Manche. Il va réussir cette traversée de la Manche, alors avec en souffrant 1000 morts, hein. Mais en tout cas, il aura réalisé son rêve, parce qu'on parlait de rêve, et là son rêve est réalisé.
Oui, alors vous parlez aussi, je parlais tout à l'heure des nageurs d'aventure. Vous parlez, les nageurs d'aventure croulent l'eau qui court ou dort, comme l'alpiniste escalade la montagne, il claironne, j'ai fait le Léman, la Manche ou le canal de l'Ourcq. Donc vous faites une différence justement entre cette nage en bassin et la nage en eau libre. Et ça, c'est assez fascinant, parce que le bassin, c'est voilà, il y a des murs, hein, c'est l'eau libre, on ne sait pas où on va. Vous citez par exemple cette phrase du Miroir des Sports, qui était une ancienne revue. Hein. Quand le Miroir des Sports écrit, c'est une victoire de nageurs de style contre les nageurs d'endurance. Voilà, et ça, voilà. J'aime bien, c'est parce qu'en fait, on découvre, c'est comme pour l'écriture, vous voyez. Il y a les écrivains qui ont du style, et puis il y a des écrivains marathoniens qui y vont à la ligne. Hein. Et là, c'est un petit peu pareil.
Alors, il y a sûrement des écrivains qui écrivent au courage et d'autres qui écrivent avec du style. Alors, je fais le distinguo, je dis, en fait, il y a des aventuriers de la nage et des nageurs d'aventure. Les nageurs d'aventure, ce sont... je fais le distinguo, il y a des nageurs qui ont commencé par être des nageurs de piscine,
ouais.
Et puis après, qui ont quitté le bassin pour aller frotter leur belle technique aux rudesses de rivières, de lacs, de mers, d'océans, parfois. Et puis il y a des nageurs qui sont comme Arnaud Chassery, des nageurs de compétition mais modestes, et qui eux sont plus des aventuriers, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses un peu folles. D'ailleurs, Arnaud Chassery a traversé 3 fois la Manche, mais il est aussi alpiniste, donc il a escaladé le Kilimandjaro, il emmène des enfants et des enfants et des adultes handicapés dans ses expéditions humanitaires. Donc ça, c'est typiquement un aventurier qui s'est retrouvé à traverser la Manche, et puis qui escalade le Kilimandjaro, et puis qui fait des choses comme ça. Alors qu'on a des nageurs, d'authentiques nageurs champions de bassin, qui à un moment donné font le mur et se retrouvent dans la mer, dans la rivière. C'était un peu mon cas, même si je n'ai pas été un immense champion de bassin d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'étais encore moins un champion en eau libre, parce que c'est une autre paire de manches.
Ouais. Alors il y a la mythologie de la traversée de la Manche. Hein. Ça, c'est depuis 2 siècles, on recit l'histoire fort crédible selon laquelle la première traversée de la Manche à la nage aurait été en fait effectuée en 1817 par un soldat italien de Napoléon surnommé Jean-Marie Salatine, et en 1876 dans le Piémont. Enfant, l'homme est surnommé la Loutre dans son village natal en raison de ses aptitudes à plonger dans les torrents pour y capturer des poissons. Et il y a une femme qui apparaît, c'est Trudy, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Ederle. Qui justement, ça rejoint notre invité de tout à l'heure, ça rejoint le livre d'Emmanuel Favier, qui elle était parlait d'une oreille d'or, mais elle, la pauvre, elle est atteinte d'une forte d'une sourdité assez costaud, on va dire. Il lui manque ce sens-là. Et elle va, grâce peut-être à ce... Vous dites, à l'âge de 5 ans, elle a contracté une rougeole qui l'a enfermée dans une surdité partielle. La mère lui permet d'échapper aux autres, au bavardage dont chaque bribe lui rappelle qu'elle est différente. pour moi, elle est comme une personne à part. Enfin, c'est... Et cette femme est vraiment un des personnages extraordinaires de votre livre, chez Bordet.
C'est déjà un personnage extraordinaire parce que c'est la première femme à avoir traversé la Manche, avoir réussi la traversée de la Manche en battant le record des hommes. Six hommes seulement avaient traversé la Manche en 1926 quand elle la traverse, elle. Il faut savoir qu'en 1924, elle est la meilleure nageuse du monde en bassin, c'est-à-dire du 100 mètres au 400 mètres, elle est la meilleure du monde, elle a les records du monde. Après, justement... être tombée en amour pour la nage, parce que la première fois que son père la met dans l'eau, elle, qui est à moitié sourde, s'y trouve très très bien dans ce monde du silence, en fait. Oui. Elle s'y trouve mieux qu'ailleurs. Et donc, elle tombe sur un entraîneur formidable, elle devient une nageuse extraordinaire, et elle doit gagner aux Jeux Olympiques en 1924 à Paris, et elle ne gagne pas. Elle arrive que troisième, et là, pour elle, c'est une blessure terrible, quoi. Elle est mortifiée, et... la fédération de natation américaine cherche une nageuse pour traverser la Manche, parce qu'aucune femme n'a jamais traversé la Manche. Donc ce n'est pas elle qui est choisie, puisque c'est celle qui l'a battue aux Jeux Olympiques, et il se trouve que celle qui l'a battue aux Jeux Olympiques se foule la cheville en descendant du tramway. C'est la chance de Trudy Ederle, et donc elle se retrouve en Angleterre. Elle s'entraîne avec un entraîneur écossais pour traverser la Manche. Ça se passe très mal d'ailleurs avec l'entraîneur écossais en question, qui a des méthodes très particulières.
Alors, faut dire, moi j'ai appris plein de trucs. On s'enduit de graisse de marsouin pour pas avoir froid dans le... Enfin, c'est toute une technique, en fait. C'est fou, quoi.
On traverse pas la Manche comme on va regarder les signes du bois de Vincennes. Mais même si aujourd'hui on sait que se mettre trop de graisse sur le cou, c'est pas une bonne chose, parce que vous emprisonnez plus la froidure qu'autre chose.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie préparation. À l'époque, il y a deux ou trois entraîneurs dans le monde qui sont capables de vous préparer pour traverser la Manche. Il y a cet Écossais. Elle s'en remet à lui, ça se passe pas bien, parce que lui veut surtout lui changer sa technique. Et il a pas complètement tort. Tout le monde dit qu'il a tort, parce que évidemment surtout les Américains disent qu'il a tort, parce que déjà c'est un Écossais. Donc lui veut qu'elle tourne moins vite les bras. Il dit qu'elle tourne trop vite les bras, mais elle nage en tournant très vite les bras, et elle dit que c'est sa nage, etc. Bon, il avait pas tort de vouloir le faire tourner un peu moins vite les bras. J'explique pourquoi. Mais surtout, la traversée se passe très mal. Puisqu'elle est à moitié inconsciente au bout d'un moment, parce que il fait un très mauvais temps. Déjà, quand il fait beau et que vous êtes dans l'eau depuis 10 heures, c'est pas forcément confortable, mais qu'en plus il fait très froid dehors et qu'il y a des grosses vagues, et bon, elle est à moitié inconsciente, il la sort de l'eau, et après évidemment il y a toute une polémique, parce qu'elle dit j'aurais pu continuer, etc. Mais lui, il n'a pas envie qu'elle se noie, donc il a fait plutôt sortir de l'eau. Mais quand je dis une polémique, il y a quasiment une polémique entre les États-Unis et l'Écosse, quoi. Les journaux s'en emparent. Les journalistes s'en emparent, ça fait la une des gazettes, et plus que des gazettes, aux États-Unis pendant un certain temps. Et elle, évidemment, est mortifiée, parce que pour se guérir de son échec des Jeux Olympiques, elle veut traverser la Manche, et elle se retrouve à tomber dans les pommes, dans la mer. Donc elle va repartir. Elle va repartir à l'assaut de la Manche avec un autre entraîneur avec qui ça se passe très bien. Donc elle va s'entraîner avec. Elle s'entraîne aussi avec d'autres nageurs. Je raconte tout ça dans le détail, ce que vous dites, la graisse de marsouin, ce qu'ils mangent pendant qu'ils traversent.
Ah oui, moi je m'imaginais pas qu'ils mangeaient autant, qu'il fallait leur donner. On sait ça, mais on ne connaît pas. C'est-à-dire, vous nous décrivez la traversée de la Manche.
Ah oui, je la décris mètre par mètre.
Ah oui, oui.
Elle mange toutes les 20 minutes.
Toutes les 20 minutes, il faut qu'elle se nourrisse.
Oui, toutes les 20 minutes, parce que vous ne pouvez pas avoir une fringale. Quand vous avez la fringale, c'est comme les cyclistes, c'est trop tard.
Ouais.
Donc, il faut se nourrir toutes les 20 minutes. Il ne faut surtout pas montrer... En fait, parce qu'il y a quelqu'un, il y a quand même un juge qui vous accompagne pour homologuer tout ça, même si c'est moins sérieux qu'aujourd'hui. Mais si le juge votre entraîneur trouve que vous commencez à plus répondre aux questions et puis à nager bizarrement, il vous sort de l'eau quand même, parce qu'il n'a pas spécialement envie que vous vous noyez. Trudy, même si elle est sourde, elle a tenu à ce qu'un des bateaux qui l'accompagne soit muni. Alors il y a des journalistes qui l'accompagnent, c'est incroyable. Il y a des journalistes il y a un bateau qui est plein de journalistes. Sa traversée est suivie en direct. Et puis il y a un bateau où il y a de la musique, c'est-à-dire qu'il y a un tourne-disque et on lui passe ses airs favoris qu'elle entend quand même si elle est à moitié sourde, elle entend ça quand même. Et d'ailleurs, je donne les titres des chansons qu'elle écoute. Et la deuxième fois, je trahis pas un grand secret, elle traverse la Manche, mais elle la traverse plus vite qu'aucun homme ne l'a jamais fait à ce moment-là.
C'est fou. Alors vous dites, Derwels, vous rapportez aussi des propos qu'elle dit. Ça a l'air fou, je sais, mais quand je nage dans la mer, je lui parle, je ne me sens jamais seule quand j'en sors.
Oui, c'est ça. En fait, elle est beaucoup mieux dans la mer qu'ailleurs, parce qu'ailleurs, vous savez, quand vous êtes sourd, enfin, je le suis pas, mais j'imagine, quand vous êtes sourd, vous n'entendez pas ce qu'on vous raconte. C'est extrêmement difficile de se mêler à une conversation. D'ailleurs, elle va finir... Elle va avoir une vie assez triste hein, derrière. Elle meurt très âgée, mais seule. En fait, elle est toujours très isolée. Sa surdité l'isole, sauf dans la mer. Parce que dans la mer, déjà, personne ne vous parle. Les poissons ne sont pas bavards. Et elle s'y trouve bien. Elle n'a pas l'impression d'être rejetée. Elle n'a pas l'impression d'être en dehors d'un groupe ou quoi que ce soit.
Ah, voilà ce que vous dites. Le contraire d'une star, une fille à part, sa timidité l'isole, sa volonté impressionne, sa fierté surprend. Elle peut même heurter ceux qui la sous-estiment. Alors, qu'est-ce que c'est que les nageurs ou les poissons-pilotes, Gilles Bornet
Quand on traverse la Manche, vous avez par moment des gens qui se mettent dans l'eau en même temps que vous et qui vous accompagnent pour. En fait, c'est pour rompre la monotonie parce que ça paraît peu, pas, mais bon, quand vous mettez 15-16 heures pour traverser la Manche, le temps est long, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas d'autoradio dans la voiture. Donc, c'est bien d'avoir des gens parce que ce sont les gens avec lesquels vous êtes entraînés, donc ils vous connaissent, ils nagent pas trop vite pour vous montrer que vous nagez à la bonne allure, et puis ça vous fait une compagnie quand même, parce que c'est en plus j'explique dans le détail, si vous respirez toujours du même côté, par exemple, vous allez toujours voir le même petit morceau de la coque du bateau. Donc, parce qu'il faut pas croire que bon, on va se mettre à respirer trois temps si on a l'habitude de respirer deux temps, etc. Donc c'est une très très grande monotonie en même temps qu'une très très grande souffrance, parce que le froid est là, le froid il vous envahit, il vous tétanise. Moi j'ai nagé aussi un peu en eau libre dans de l'eau froide, c'est terrible, vous ne pouvez plus parler, vous êtes tout juste bon à nager, à tourner les bras s'ils ont encore envie de le faire, hein, mais c'est le froid de la mer pendant des durées importantes, c'est une souffrance importante. Donc c'est vrai que dès lors que vous avez des gens qui nagent à côté de vous, ça vous distrait de vos propres souffrances.
Alors pour Trudy, justement, les courageux et courageux censés être ces poissons-pilotes ne peuvent soutenir son allure. Trudy tient à peine sur ses jambes, il est 21h40, elle a nagé pendant 14h38, battu de presque 2h le record masculin de Henrique Tirabocchi et établi un record féminin qui durera 25 ans. Et elle jouera d'ailleurs son propre rôle, dites-vous, dans un film, je pense, Swing Girl.
Oui, mais enfin, elle a été très célèbre. Hein, elle a été accueillie à son retour à New York par des centaines de milliers de personnes. Hein. C'est une parade dans les rues de New York. Il y a des centaines de milliers de personnes. Il y a des confettis et elle est accueillie. On lui donne les clés de la ville de New York, etc. Enfin, c'est une star. Et comme toutes les stars, on les enrôle au cinéma, mais ça ne marche pas du tout. En fait, ça ne marche pas. C'est pas Tarzan, ça a marché. Johnny Westmuller, ça a marché.
Mais elle,
ça a pas marché parce qu'elle est, comme je le dis, extrêmement timide. Elle a même joué dans des spectacles, d'ailleurs pour gagner un peu d'argent, parce qu'à un moment donné, une fois que vous avez traversé la Manche, la vie continue. Donc elle a joué dans des spectacles aquatiques, un peu des ballets nautiques et des choses comme ça pour gagner de l'argent. Mais elle n'avait pas l'étoffe d'une star, ou en tout cas, elle n'avait pas envie peut-être d'être une star. C'est une fille discrète, pleine de qualités, et elle n'avait pas suffisamment un ego pour vouloir devenir une star de cinéma.
On va faire une très courte pause musicale.
Là, nous allons écouter Baptiste Bailly, la fascinante. Les rêves d'Enora. Non, moi, je coupe pas les morceaux de musique. Thank you.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence de Gilles Bornet qui vous présente Les Aventuriers de la Nage, des évadés d'Alcatraz, faut que je prononce bien, aux héros de la Manche. Ça vient de paraître aux éditions du Rocher. Gilles Bornet, alors il y a plein de personnages de romans, on pourrait dire, plein d'aventuriers dans votre livre. Aurélie Muller, par exemple, ou L'eau libre et furieuse. Et un personnage étonnant, c'est Michael Paccard. Il fait penser à Jonas. Oui. Il est avalé par une baleine. Oui, c'est incroyable, ça.
Oui, il pêche le homard. Ouais. Et puis, d'un coup, il a comme, on dit un peu trivialement, un coup de moins bien. Tout devient noir autour de lui. Puis, il réalise qu'il se retrouve dans la gueule d'une baleine. Alors il y reste pas 107 ans non plus. Hein. Mais il y reste suffisamment longtemps pour se voir mourir, quoi. Hein. Il y reste suffisamment. D'ailleurs, il sait qu'il est dans la gueule d'un poisson, mais il se demande dans la gueule de quel poisson. Hein. Et ça peut très bien être un requin, etc. Et heureusement, la baleine le recrache. Alors il est quand même blessé un peu. Mais il n'en est pas mort, la preuve, c'est qu'il nous a raconté ça. Et il y a des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le romanesque est toujours rattrapé par la réalité. Quoi.
Mais oui, par l'aventure.
Oui, par l'aventure.
L'aventure et le romanesque font très, très bon ménage.
Alors là je ne sais pas si on peut parler d'aventure, parce que est-ce que dans une aventure, il n'y a pas la notion que d'un acte volontaire. Après, on pourrait discuter de ça. Lui, le pauvre, il n'était là que pour gagner sa vie et plonger, et il se retrouve effectivement dans la gueule d'une baleine. Alors j'explique, c'est pas moi qui l'explique, je relaie ce qu'ont dit les scientifiques, où la baleine l'avait pris pour autre chose que ce qu'il était, puisque normalement une baleine est absolument pas dangereuse, évidemment, mais voilà, en fait une baleine voit mal ce qu'il y a juste devant elle, donc voilà, si vous vous baignez, vous voyez une baleine, ne vous mettez pas juste devant, parce qu'elle voit mal.
Elle voit mal, mais enfin lui, il est quand même particulier. Je crois qu'il lui était arrivé une autre aventure.
Hein, oui, lui, il avait réchappé à un crash d'avion. Décidément. En fait, il y a un avion qui s'est écrasé. C'était le seul à en avoir réchappé.
Il a quand même du pot. Enfin,
oui, ouais, dans son malheur, il a beaucoup de chance. Oui,
il a beaucoup de chance. Enfin, c'est incroyable, ça. Enfin, bref, on n'imagine pas. Mais c'est grâce à vous, on voit un peu, finalement, l'arrière-pays. L'arrière-fond de votre livre, c'est l'océan. Mais avec tout ce que ça comporte de défis, de dangers, de courage, vous parlez du Superman des mers, Jacques Tuzet. Alors, pourriez-vous nous présenter ?
Alors, Jacques Tuzet, c'est un personnage que le monde de l'eau libre en France connaît bien, parce que c'est un précurseur, c'est un des premiers à avoir gagné des titres en compétition d'eau libre sur 5 km, 10 km, etc. Ça a avant été un bon nageur de bassin, mais lui, très vite, en fait, il sait qu'il continuera pas en bassin. Il sait que la première fois qu'il fait une traversée en eau libre, il sait que ça va être pour lui, que cette discipline va être pour lui. Et pourquoi, en fait, il sait que cette discipline va être pour lui? Parce que très jeune, en fait, il habitait du côté de Canet en Roussillon, et son père l'inscrivait. Alors, son père lui a appris à nager dans la mer. Donc c'est pas rien, il a appris à nager dans la mer, et son père l'a inscrit dans des compétitions où il y avait des traversées, et en fait il est tout de suite très bon. En fait, il est tout de suite très très bon. Une fois d'ailleurs, il perd à cause de lui, parce que son maillot de bain qui est pas bien attaché, etc. Mais alors après, comme il est bon nageur, il se retrouve en section sport-études pour le bassin. Il est même en équipe de France junior, etc. Mais lui, ça l'amuse pas, et il veut revenir en fait à ce qu'il a ressenti quand il a fait ses premières traversées, lorsque son père lui apprenait à nager dans la mer. Et donc, il est le Alors, déjà, il est un des pionniers de l'eau libre en France, puis il se spécialise dans quelque chose qui est très intéressant, c'est les évasions. C'est-à-dire que Jacques Tuzet, il s'est évadé de dizaines et dizaines de prisons, de pénitenciers.
Ah bah oui, vous voyez, bien fait de vous interroger là-dessus.
Aux quatre coins du globe, ouais. Donc en fait, il y va, et puis il se jette à l'eau des différents pénitenciers, et puis il fait des traversées, alors ça peut être 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, voilà, il fait ça. En plus, c'est le spécialiste français de la traversée de la Manche, parce qu'il est le représentant français d'une des deux associations qui homologuent les traversées de la Manche, qui sont toutes les deux anglaises. Donc il organise des stages. Voilà, vous voulez traverser la Manche, vous appelez Jacques Tuzet et il va vous faire un entraînement. Il organise des stages et on vous apprend à traverser la Manche. Alors vous allez me dire, ça apprend pas. Ouais. On plonge et on va tout droit. Bah, c'est pas exactement ça. Déjà, on vous apprend à connaître vos limites. C'est-à-dire qu'il y a un test de 6 heures. Vous devez nager pendant 6 heures dans une eau pas très chaude. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, reprenez la nage en piscine et le camping. Et sinon, déjà, il y a ça. Et puis après, il y a savoir affronter les vagues. Donc, on vous apprend à nager dans les vagues. Je peux vous dire, moi, que parfois, les vagues sont tellement hautes que oui. Vous ne pouvez plus nager. Donc, Jacques Tuzet vous apprend à nager avec des vagues. Il vous entraîne aussi à supporter l'eau froide. Il vous donne quelques remèdes pour supporter l'eau froide, parce qu'il faut s'y entraîner. Vous dirigez aussi, parce que quand on nage en mer, c'est évidemment plus compliqué de s'y diriger qu'en piscine. Voilà, il y a tout un apprentissage. Il y a des gens qui n'y arriveront pas. Hein. Si vous ne supportez pas l'eau froide, c'est pas possible. Alors. Même si vous supportez l'eau froide, on va vous dire d'après de prendre des bains avec des glaçons, de nager, de plus aller nager en piscine. Il faut toujours nager, développer ce qu'on appelle la graisse brune. Alors qu'est-ce que c'est que la graisse brune ? La graisse brune, c'est ce qu'on développe dès lors qu'on est en contact avec le froid, que ça soit une fenêtre ouverte ou dans l'eau. Voilà. Et cette graisse brune, c'est ce que les Esquimaux ont beaucoup, ce que les bébés ont beaucoup. Vous savez, les bébés sont toujours un peu gras au niveau de devant les épaules. Là, il y a toujours un peu de graisse parce que les bébés ne peuvent pas frissonner. Et comme les bébés ne peuvent pas frissonner, ils ne peuvent pas résister au froid, donc ils développent beaucoup de graisse brune. Alors, ce n'est pas vraiment de la graisse, en fait. On dit elle est brune parce qu'elle est très sanguine. En fait, c'est une matière très sanguine. Les mitochondries sont très présentes. Pour faire simple, dès lors que vous êtes confronté au froid, vous développez cette graisse, mais vous aurez constaté... Tout le monde a constaté qu'il y a des gens qui résistent plus ou moins au froid. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a des gens qui, de manière héréditaire, résistent au froid. Mais on peut travailler cette qualité. Si jamais un jour vous voyez en plein hiver quelqu'un en manche courte à Paris, c'est souvent un Écossais ou un Esquimau, parce qu'eux développent beaucoup de graisse brune, parce que chez eux, il fait beaucoup plus froid que chez nous. Vous voyez ? Donc, ils peuvent être en manche courte quand vous êtes en pullover. Voilà. Donc, pour traverser la Manche, il faut vivre les fenêtres ouvertes, ce que font d'ailleurs des gens qui traversent la Manche, hein, vivre les fenêtres ouvertes, prendre des douches froides dans son jardin ou sur son balcon et ne plus jamais se mettre en contact avec la tiédeur.
Ouais, vous parlez de l'esprit du sculpteur dans le corps d'une statue au sujet de Jacques Tuzet et vous dites qu'il fait partie de ces battants qui, pour reprendre le mot de Paul Valéry, cherchent la sensation de vivre davantage. Chercher la sensation de vivre davantage, c'est un peu le fil rouge aussi de votre livre. Gilles Bordet. Ah, il y a une femme, Anne Bateau, la doyenne de l'Ourcq et du Monte Cristo. Anne Bateau, c'est aussi une femme. Vous dites, à 79 ans, elle nage tous les jours ou presque dans la Méditerranée, en face du château d'If, et prend part de janvier à juillet à une demi-douzaine de courses en mer. Son âge en a fait l'officieuse doyenne de l'eau libre en France. Et son énergie, un exemple.
Alors Anne Bateau, il se trouve que je l'ai connue avant d'écrire ce livre, parce qu'elle était marseillaise, puis parisienne.
Oui.
Et moi, je l'ai connue quand elle nageait. En fait, c'est une nageuse de piscine au départ. Et puis, quand elle quitte la région parisienne pour aller à Marseille, d'où elle vient d'ailleurs, et ben là, elle se retrouve à nager en mer tous les jours avec un groupe de nageurs. Et puis, comme tous les gens qui avancent un peu dans l'âge, elle a des douleurs.
Oui,
on dit que passé 50 ans, si on n'a pas de douleur, c'est qu'on est mort. Bah elle n'est pas morte du tout et elle a des douleurs, elle a de l'arthrite, elle a mal aux articulations. Mais en fait, quand elle nage dans l'eau froide, parce qu'évidemment, elle nage toute l'année dans la Méditerranée. Et je peux vous dire que du côté de Marseille, au mois de janvier, février, et même après, la mer est froide. La mer est froide. Et donc, elle y nage tous les jours. Et donc, elle a beaucoup moins mal. Elle a beaucoup moins mal. Donc, j'explique aussi les bienfaits de la nage et de la nage en eau. Alors, en eau glacée, on parlera peut-être de l'eau glacée après, mais en eau froide, c'est-à-dire l'eau qui fait entre 10, 15, 18 degrés.
Ouais.
Et alors, il faut s'y habituer. Hein. Elle est. Au début, elle nageait en piscine, Anne Bateau. Et puis, elle s'est mise à nager en mer. Et elle explique tout ça très bien. Alors, en plus, elle y explique que c'est assez drôle parce qu'elle fait parfois des rencontres. Une fois, elle tombe nez à nez avec un gros poisson, une baudroie qui est très, très laide. Elle a très peur. Bon, quand vous nagez en mer, il vous arrive toujours quand même...
Des
aventures ou des mésaventures. Ça va de la méduse à la baudroie. Ça peut même être parfois pire que ça. Vous avez les courants, vous avez les vagues, vous avez le temps qui peut se gâter très rapidement. Donc, Anne Bateau raconte un peu tout ça et elle raconte surtout le bien fou que lui a fait la nage en mer. Et puis, l'intérêt... à sa grande surprise qu'elle suscite.
Alors vous dites aussi, je pense que c'est pour elle, hein, la bonne fée qui se penche alors sur son berceau de nageuse, a une stature de colosse, le sourire facile et la voix forte et fleurie, c'est Alex Janis.
Alex Janis, c'était l'un des plus grands nageurs du monde, ouais. Si ce n'est le plus grand nageur du monde, dans les années 40-50. Après, c'est devenu un entraîneur. Il était toulousain au départ, ensuite il est devenu entraîneur à Marseille. C'est un personnage immense de la natation française. Et il était entraîneur au Cercle des nageurs de Marseille. Anne Bateau, quand elle arrive de Paris, quand elle vient de Paris, elle nage à Marseille et c'est son entraîneur. Et est entraînée par Alex Janis, je sais pas, moi, c'est comme si Jacques Brel vous apprenait à chanter. Enfin, vous voyez, oui, c'est ou Picasso vous apprenait à peindre. En plus, c'est un monstre de gentillesse, Alex Janis. Il est décédé aujourd'hui. C'est un monstre de gentillesse. C'est la faconde du Sud et c'est quelqu'un qui connaît évidemment très bien la natation. Et peut-être que si Alex Janis n'avait pas entraîné Anne Bateau, elle aurait arrêté de nager parce que bon, elle avançait dans l'âge et puis peut-être qu'elle se serait dit, j'ai passé l'âge de nager. Mais quand vous êtes entraîné par Alex Janis, parce qu'elle nage pas très bien le crawl quand elle arrive à Marseille. Elle nage surtout la brasse, elle nage pas très bien le crawl, et quand vous nagez en mer, voilà, vaut mieux nager le crawl quand même. Hein.
Oui, alors vous êtes, vous faites l'éloge du crawl, hein, beaucoup, du papillon aussi, ça c'est les lecteurs et les auditeurs qui vous liront, le découvriront. Et il y a aussi cet aspect un peu philosophique dans votre livre, c'est-à-dire le poids du mental sur le corps. La tête, c'est plus que la moitié de la réussite, on peut nager 6 ou 10 heures sans être débarrassé des problèmes qui tournent en vous. Voilà, c'est un apprentissage mental, hein, beaucoup, on sent ça à vous lire aussi Gilles Bornet. Et puis, d'ailleurs, à la fin, je crois, de votre livre, quelques minutes après sa traversée, le timbre tremblé par la fatigue, l'émotion, Philippe Croizon a prononcé des paroles qu'Edmond Dantès, toujours lui, n'aurait pas renié. Je veux montrer aux gens qui souffrent que c'est faisable, que tu dois toujours te battre. J'espère être un symbole du dépassement de soi. C'est un peu la philosophie de ce livre.
Oui, alors
le but du jeu finalement, Gilles Bornet, c'est de montrer d'aller au bout de ses limites, qu'il y a à tout âge qu'on peut.
Alors déjà une petite précision, Philippe Croizon, il dit ça et ça a d'autant plus de force qu'il n'a ni bras ni jambes, hein. Donc voilà. Il a traversé la Manche sans bras sans jambes. Hein. Donc quand il parle de dépassement de soi, il sait ce qu'il en est. Ouais. Et Philippe Croizon, bon, il a été électrocuté, il n'est pas né comme ça, il est électrocuté, il est, on peut dire, déprimé sur son lit d'hôpital. Et c'est toujours pareil, il suffit de très peu de choses pour vous remettre en selle dans la vie. Lui, qu'est-ce qui le remet en selle? Parce que quand vous n'avez plus de bras, plus de jambes, vous êtes sur l'hôpital, vous en êtes à la 40e opération, bon, tout va pas forcément bien dans votre tête. Lui, il voit à la télé un reportage sur Marion Hans, qui est une dunkerquoise, nageuse, qui a traversé la Manche, qui a eu le record de France féminin de la traversée de la Manche. Il voit un reportage sur cette femme, qui est une très jeune femme quand elle traverse la Manche. Et il dit, moi je vais traverser la Manche. Exactement comme Arnaud Chasserie a dit, moi je vais traverser la Manche quand il a vu gamin les gens sortir de l'eau. Lui, il a vu ça à la télé, il a dit, voilà comment je vais me remettre dans la vie. Et donc, en fait, il va sur, c'était à l'époque le Minitel, je crois, il rencontre une femme qui va l'entraîner, et il va s'entraîner pendant évidemment plusieurs mois, plusieurs années, et il va traverser la Manche. Et c'est à l'issue de sa traversée de la Manche qui dit ça. Et après, la question que pose ce livre, Emmanuel Favier disait tout à l'heure, les romans sont faits pour poser des questions, pas forcément y répondre. Ce livre aussi, alors il répond de temps en temps aux questions, évidemment, mais il en pose aussi. Et la question que pose ce livre, c'est pourquoi on traverse la Manche? Pourquoi on va descendre une rivière qui fait 80 km? Pourquoi le premier, quand même, gars qui a traversé la Manche, Matthew Webb, qui est un capitaine de marine marchande anglais en 1875, il met plus de 20 heures pour traverser la Manche. Derrière, il va se produire en fait dans des théâtres, à Boston, il gagne $1000 parce qu'il va rester 6 jours d'affilée dans une baignoire translucide à travers laquelle les gens le voient, et il va se lancer des défis de plus en plus fous jusqu'à essayer de traverser les chutes du Niagara, et là ça va pas très bien se passer. Et donc on peut se poser la question, pourquoi, qu'est-ce qui attire les gens vers voilà. Alors évidemment que je sais pas tout. Moi je pense que la part du rêve est très grande. Ce sont des rêveurs éveillés. Et puis il y a aussi, je crois, quelque chose qui est très humain, c'est d'avoir envie d'être un héros. On a tous envie d'être un héros. Alors ça commence, on s'habille en Thierry Lafond, en David Croquette quand on est petit. Et puis si tout d'un coup on se sent vraiment l'âme d'un rêveur et d'un héros mélangé, on peut se lancer à l'assaut de la Manche. Et la mer a de très particulier, c'est que là, vous êtes vraiment seul. Quand vous traversez la Manche, vous avez beau avoir des gens autour de vous, vous êtes seul. Parce que vous êtes obligé, quand vous montez l'Everest, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez vous arrêter de marcher. Vous allez pas Là, si vous arrêtez de nager quand vous traversez la Manche, vous coulez. Donc,
bon.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, Gilles Bornet, pour les aventuriers de la nage, des évadés d'Alcatraz aux héros de la Manche. Ça va paraître aux éditions du Rocher. On peut vous retrouver dans un salon. Il y a des salons.
Oui, je pars demain matin. Potron-Minet à Limoges pour trois jours d'un très beau salon à Limoges qui s'appelle Lire à Limoges. C'est un très beau salon, il y a des débats, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, j'ai un autre salon après, à la fin du mois d'août, à Villers-sur-Mer, à côté de Houlgat. Et c'est à cette époque que je vais publier dans la collection de poche des éditions du Rocher qui s'appelle Lithos, un roman, parce que je suis romancier, qui s'appelle J'ai toujours aimé ma femme.
Bah écoutez.
Voilà, un autre héros.
Merci Gilles Bornet. J'imagine qu'on peut retrouver aussi sur le site des éditions du Rocher.
Oui.
Merci de nous avoir parlé de ces aventuriers de la nage, avec une très très belle couverture, avec une belle vague, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. C'est un essai, mais il y a beaucoup beaucoup de personnages de romans dans votre livre. Merci beaucoup à vous.
Merci,
merci aux auditeurs qui nous ont accompagnés. Merci à Flo Descailloux qui a fait la sélection musicale. Bien sûr, vous pouvez podcaster l'émission sur le site de Radio Libertaire. Je vous y encourage. Et puis un lien, c'est comme une grande vague. Ça vous une vaguelette parfois, et puis ça vous amène à surfer sur d'autres vagues tout aussi passionnantes. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est Océan de lumière de Michel Pépé, L'appel de la baleine bleue.
Sur le cœur, qui m'en ont foutu plein la vue. Elle avait rien sous son sweater, elle était toute ronde et menue. Je l'ai aimée comme un voleur, elle s'en est pas même aperçue. Encore une fille qui passe, et c'est mon cœur qui casse. Ces filles en balade, ça me rend malade. Toutes ces filles qui traînent mon cœur à la traîne. La rue pleine de vie, c'est les filles. C'est les filles. J'aurais voulu choper ses mains, j'aurais voulu pouvoir lui dire. J'aurais dû lui parler de rien, je voulais pas la voir partir. Mais j'étais pas sur son chemin, j'ai pas même pu voir un sourire. Elle est partie vers ses gamins, vers son meilleur ou vers son pire. Encore une fille qui passe, et c'est mon cœur qui casse. Ces filles en balade, ça me rend malade. Toutes ces filles qui traînent mon cœur à la traîne. La rue pleine de vie, c'est les filles, c'est les filles. Je me suis tiré vers mon boulot, canalisé par le trottoir. Mais j'avais sa paire de Lolo qui me trottait dans la mémoire. Ça m'a fait un moment jojo, un petit moment sans désespoir.